Vous êtes sur RTL.
En Europe, par exemple, évidemment, dans l'Union européenne, elle est appliquée nulle part. Et les pays qui l'appliquent, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est les États-Unis.
On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous disais en préambule, je suis pour et je suis contre.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité à ces gens qui sont en perpétuité de pouvoir réparer à travers cette peine de compensation, c'est-à-dire leur choix de ne plus vivre.
Bon, merci Denis pour ce premier témoignage. Je l'ai dit, moi je ne veux pas faire un débat sur la peine de mort, parce que d'ailleurs l'année prochaine, ce sera les 40 ans, on célébrera les 40 ans de l'abolition de la peine de mort par Robert Badinter. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça nous dit forcément de notre société. On est avec Franck qui habite Roubaix. Bonjour Franck.
Bonjour Pascal, bonjour les auditeurs.
Et merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Comment vous réagissez quand vous voyez ce chiffre si haut que cela ?
Ben, moi, je le verrais dans l'autre sens. Je trouve qu'il n'est pas encore assez haut. Alors, moi, je précise, je suis votant à gauche. Donc, pas forcément. J'ai un peu vu les statistiques, 71%, les RN, la droite. Non, moi, je vote à gauche. Mais moi, je me mets du côté des familles des victimes. Quand on voit les crimes de sang, quand on voit les personnes qui sont tuées, les enfants, les personnes âgées, quand on voit des terroristes, je me dis que pour les crimes de sang, connus, reconnus, validés par la justice, pour cela, ils devraient avoir la peine de mort.
Oui, mais alors là, vous faites le débat sur la peine de mort. C'est pas, j'ai pas envie d'aller forcément dans ce débat-là. Vous comprenez, c'est un débat qui a été tranché, si j'ose dire.
Oui, mais il ne faut pas s'étonner que, l'auditeur précédent le disait, il ne faut pas s'étonner avec une justice qui n'applique pas les règles qu'elle devrait appliquer. Il ne faut pas s'étonner que, malheureusement, ce genre de sondage va augmenter. Enfin,
en tout cas, c'est en augmentation, c'est le chiffre augmente. Mais puisqu'on vous entend, j'ai envie de dire, il y a des petits décrochages à 13h07. Je vous propose peut-être de laisser passer une publicité, de saluer Greg Caranoni, qui est là aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Les jours. Bonjour.
Je suis là tous les jours.
Mais oui, vous êtes dans une séquence là en ce moment où vous enchaînez les journées.
Je ne lâche rien.
Vous ne lâchez rien. Je salue Pierre-Louis également. Au standard, vous pouvez trouver Olivier, Evan, Cyranouche qui sont là. Et Damien Béchiot est avec vous également.
Oui.
Donc c'est la fine équipe. Damien Béchiot, quand je vous parlais, il est entré dans la régie précisément. A tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier a la parole. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. 55% des Français affirment qu'il faudrait rétablir la peine de mort en France selon une étude Ipsos. Et José ne va pas sur ce terrain. Il faut plutôt un vrai chef de la justice. Même avis pour Marie sur la page Facebook de l'émission. Mettons hors d'état de nuire des meurtriers, des violeurs, des terroristes. Je partirai sur l'isolement total sans moyen de se divertir. Arrêtons avec le sursis, demande encore Olivier, comment peut-on faire sortir des délinquants sexuels? Ce chiffre de 55% me fait peur, réagit Patrice. Comment notre société en est-elle arrivée là? Et appliquons simplement les peines, conclut Mireille sur nos réseaux sociaux.
Ça revient souvent, ça. Appliquons les peines. Céline, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Céline.
Merci beaucoup à vous d'avoir des émissions de ce type.
C'est gentil. Ce sondage, d'ailleurs, je rappelle, il n'y a pas que la peine de mort. Il y a également 82% des Français qui estiment qu'on a besoin d'un chef. Il y a 33% des Français qui pensent que d'autres systèmes que la démocratie peuvent être bons. En fait, c'est terrible, cette phrase. C'est un Français sur trois pense qu'un autre système que la démocratie peut être bon. Moi, ça me fait peur. Céline.
Pourquoi ça fait peur?
Parce que, comme disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
Oui, mais il y a d'autres choses qui ont été dites par de grands hommes et qui se sont révélées négatives.
J'entends bien. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Mais moi, la démocratie, elle nous permet d'être libre. Elle vous permet de parler au micro de RTL. Dans d'autres sociétés, vous ne seriez pas libre. Vous ne pourriez pas appeler le 3210. Vous ne pourriez pas donner votre avis. Non, et si vous le donniez, vous iriez directement au goulag ou ailleurs.
Voilà. Il faut laisser cette démocratie en place. Maintenant, instaurer des lois, c'est tout à fait normal. Parce qu'il en faut. Mais on a tout à fait le droit de dire ce qu'on pense. La preuve, on le fait actuellement par le biais de vos émissions. Et après, ça permet aussi à des gens de s'exprimer clairement, de donner leur opinion. Maintenant, j'ai peut-être pas une opinion qui plaît à tout le monde dans la vie, mais j'ai ma propre opinion. Je ne suis pas forcément d'accord avec une opinion qui est contraire à la mienne, mais c'est une opinion. Après, avec plusieurs opinions, on arrive à faire de bons sujets, et c'est ce qu'il faut garder.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu abstrait ce que vous me dites. J'ai l'impression que vous hésitez à dire ce que vous pensez.
Non, pas du tout.
C'est un peu général, disons. Mais par exemple, vous, sur ce sujet, vous avez peut-être un avis précis, par exemple. Qu'est-ce que ça dit de notre société, selon vous, ces 55%, et qu'est-ce que vous en pensez peut-être?
Alors, pour l'instant, notre société, elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle veut dire, puisque dès qu'une manifestation est mise en place, on fait en sorte de l'annuler. C'est bête à dire, mais actuellement, les Gilets jaunes se rebellent, expriment une majorité de voix françaises.
Ah non, ah non, ça, ils n'expriment pas une majorité de voix françaises. La dernière...
Sur le pouvoir d'achat.
Non, si vous me permettez, Céline, il n'y a qu'une manière de juger ce que les Français pensent, c'est les élections représentatives. Donc, il y a eu des listes de gilets jaunes européennes et elles ont fait moins d'un pour cent.
Oui, mais ils ne sont pas crédibles pour après gouverner. Après, ils expriment quand même des revendications d'un peuple et les revendications de ce peuple, elles sont majoritaires quand même. Ils ne sont pas crédibles pour gouverner. C'est pas possible de donner le pouvoir à un gilet jaune. Mais il faut que des gens comme ça participent à des décisions.
Ah ça, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a eu une influence. Par le jour où Emmanuel Macron a donné je ne sais combien de milliards, je crois que c'était au lendemain du 8 décembre 2018, c'était une manière d'influencer l'action des Gilets jaunes. Merci Céline.
Oui, mais c'est sur une courte durée, c'est ça qui est dommage.
Oui. Mais c'est pour ça que les élections arrivent tous les 5 ans. Après, vous pourrez choisir, les élections c'est en 2022, vous pourrez choisir le candidat qui représente le mieux vos aspirations. C'est le principe démocraties représentatives. Bon, on reste sur la peine de mort peut-être avec Christine qui voulait intervenir. Bonjour Christine.
Bonjour.
Et merci, vous habitez Le Havre,
en Seine-Maritime. Oui, tout à fait.
C'est étonnant d'ailleurs de faire un débat en parlant de la peine de mort. On pensait que c'était quelque chose qui était un dossier qui était refermé. Ce qui m'étonne, moi, je disais le chiffre de 55%, mais par exemple, il y a 40 ans, au moment où la peine de mort est abolie en France, en 82, il y a un sondage IFOP, 59% étaient encore favorables à son rétablissement. 59%. Et bien, 40 ans plus tard, je ne vais pas dire que c'est le même chiffre, mais c'est un chiffre comparable. On est à 55%. On aurait pu imaginer que les Français avaient tourné le dos à cette peine de mort.
Non, pas du tout. Au contraire.
Pourquoi vous dites au contraire ?
Quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tout le mal qui est fait à plusieurs personnes, et malheureusement, ces gens-là, on les laisse. On les emprisonne, d'accord, mais ils savent qu'ils vont ressortir au bout d'un certain nombre d'années, et des moments où on dit qu'ils se sont très bien comportés en prison, donc on est capable de les faire ressortir avant.
Les tueurs d'enfants, ils ne sortent pas, hein. Patrick Henry, il n'est pas sorti. Marc Dutroux, il sortira pas.
Patrick Henry, à un moment donné, il est sorti. Il est retourné après, mais il est sorti. Il est allé en Espagne. Il a fait
vous avez raison.
De la drogue.
Vous avez raison. Il était sorti. Et puis, il est mort. Il est sorti pour mourir. Mais il y avait une libération. Voilà. Vous faites bien de le dire.
Oui. Patrick
qu'il y avait,
Henry, justement, on était sûr et certain qu'à partir du moment où on a su que c'était lui le coupable, qu'on en a été sûr et certain. Moi, j'estime que ces gens-là, ils devraient y avoir eu la peine de mort.
Mais qu'est-ce que ça change ? C'est-à-dire que c'est pas dissuasif ? Tous les criminologues... Je voulais pas entamer le débat pour tout vous dire, mais tous les criminologues disent que ça sert à rien, que ce n'est pas dissuasif. Vous ne pouvez pas écarter non plus qu'il puisse avoir une erreur judiciaire. Donc si vous avez tué quelqu'un... Si vous avez tué quelqu'un qui n'était pas...
Tant qu'on a un doute, d'accord.
Ben oui, mais par définition, l'erreur judiciaire, elle est possible.
Il y a des cas où on sait exactement que c'est bien cette personne-là qui a fait ça.
Oui.
Alors cette personne-là, avec tout le mal qu'elle a fait, soit un enfant, soit une grande personne, elle sait que tout le restant de sa vie, elle va être en prison, une partie de sa vie, parce qu'elle va être libérée avant, en prison, où il y a la télévision, où il y a tout. Alors dans ces cas-là, on fait perpète, et on les laisse enfermés dans une pièce, sans télévision, sans rien, et là ils vont peut-être comprendre. Et on les laisse jusqu'à la fin de leur vie. Mais il n'y a pas du tout, on ne les laisse pas à un moment donné, au bout de 20 ans, 30 ans, ressortir.
Bah là, on peut vous rejoindre sur cette position, effectivement.
Si on a tué ma fille, ma fille aura souffert et tout, et puis cette personne, non, elle reste en vie. En plus, on dit qu'il y a pas, y a trop de monde dans les prisons. Donc déjà, ces gens-là, si on les élimine, bah on fera de la place aussi.
Je souris, pardonnez-moi Christine,
oui,
parce que ça me fait un peu sourire, et puis bon, hein, mais bon, en tout cas, cette émission est libre. Donc voilà, c'est la preuve que vous avez une libre parole, vous pouvez dire. Alors moi je suis modérateur, évidemment s'il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi, j'interviens. Mais votre parole est libre, et en tout cas c'est toujours intéressant d'entendre des voix qui peuvent être différentes. La pub à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h22, quand je disais que je ne voulais pas parler de la peine de mort sur le fond, je m'aperçois que c'est les auditeurs d'RTL appellent et effectivement prennent ce sujet. Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Et vous êtes juriste, précisément, dans le Haut-Rhin. Et vous pouvez peut-être apporter un éclairage juridique, j'allais dire, de technicien, de technicienne du droit.
Oui, peut-être un avis peut-être objectif, on va dire. Enfin, déjà, je voudrais inviter tous ceux qui ne l'ont pas lu à lire L'abolition de Robert Badinter. Ça aide vraiment à se forger un avis.
C'est un livre formidable. C'est un livre formidable. Formidable. Je suis d'accord avec vous.
Quand je l'ai lu.
J'invite tout le monde à le lire, vous avez raison.
Ouais. Vous parliez de la société, moi j'ai l'impression, parce que j'entends dans le. Que je lis à travers le sondage, c'est que finalement la société a plus soif de vengeance que de justice. Quand j'entends ils vont donner la mort, ils méritent la mort, pour moi j'entends de la vengeance, j'entends pas de la justice.
Ah ben Christine, elle va vous répondre justement. Christine, au fond, est-ce que votre motivation c'est la vengeance ?
Non, c'est pas tout à fait la vengeance, non. Non, non, mais j'estime qu'à partir
Pas tout à fait, mais un peu quand même.
Enfin, non, franchement non. Parce que j'estime qu'à partir du moment où on a fait du mal à quelqu'un,
bah, faut se venger.
Je ne comprends pas qu'on puisse rester...
C'est œil pour œil, dent pour dent.
Qu'on puisse même aller et venir comme on veut, après, non, non, c'est quand même pas possible. Si on, je sais pas, la dame qui parle, si on fait ça à un de ses enfants, elle réagit aussi comme ça. Elle ne réagit pas. Elle est entièrement d'accord que cette personne soit emprisonnée et aucun problème pour elle et qu'on la laisse ressortir au bout d'un certain temps. Pour elle, tout ça ne la dérange pas.
Réponse de Lucie.
Je vous comprends. J'ai du mal à mettre à la place des personnes effectivement qui peuvent souffrir de situations et de drames dans leur entourage proche. Maintenant, je pense qu'on vit quand même dans des sociétés modernes, dans des démocraties, vous le disiez tout à l'heure. Les châtiments, c'est indigne. On a la possibilité aujourd'hui dans nos sociétés, effectivement, de punir les gens, de les isoler, effectivement, peut-être à perpétuité. Alors, la faille est peut-être là.
Ah oui, la faille est là.
À garder les gens... isolée de la société pour qu'elle ne fasse plus de mal. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres solutions. Et encore une fois, vous l'avez dit, Pascal, l'erreur judiciaire est toujours possible parce que la justice, elle est humaine, donc elle peut se tromper. Et ça, c'est dramatique quand on entend aux États-Unis, par exemple, hein, pour m'être beaucoup documenté et avoir suivi des procès, des personnes condamnées à mort, où on a pu prouver par la suite qu'ils étaient innocents. Et ça, c'est le double drame.
Bon, voilà. Merci Christine et Lucie. Restez peut-être avec nous, puisque le débat peut rebondir. Alors Thierry est là. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal, merci d'avoir pris mon appel.
Je rappelle ce sondage, hein, 55% des Français pour la peine de mort, et ce qui est incroyable, par exemple, c'est que parmi les électeurs du Rassemblement National, on monte à 85%. Chez les Républicains, 71%. Et chez les gens de gauche, qui a priori, on est plutôt abolitionniste, et bien là, 39% des électeurs du PCF et 39% des électeurs de la France Insoumise se déclarent pour l'application de la peine de mort, ce qui m'a surpris, Thierry.
Ben exactement, et c'est ce qui m'a surpris. En attendant votre émission, j'étais en train de rouler, je me suis dit, c'est impressionnant, et c'est ce qui m'a fait réagir, c'est ce qui m'a fait vous appeler. J'ai été impressionné par ce chiffre de 55%, parce que c'est le reflet pour moi de la société. Je ne voulais pas parler de la peine de mort par elle-même, parce que j'avais bien compris que ce n'était pas votre sujet, votre débat.
C'est que ça m'ennuie un peu, vous voyez, ça fait 40 ans et je n'ai pas envie d'être au micro défendre la peine de mort. Ce n'est pas quelque chose qui me paraît convenable dans nos sociétés un peu civilisées, pour tout vous dire. J'ai pas envie d'être dans ce camp-là.
Je comprends, et ce n'était pas le but de mon appel. Moi, ce qui me faisait réagir, c'était 55% de la population se dit favorable. C'est énorme. Ça prouve quelque chose au niveau de la société. Et c'est ça qui me faisait réagir. Un sentiment de malaise, un sentiment de justice non rendue, un sentiment de peine qui devrait être appliquée et qui ne sont pas appliquées, un sentiment d'insécurité. C'est toutes ces choses-là qui m'ont fait réagir. Est-ce que ça veut dire que la population n'a plus confiance en ses lois? Est-ce que la population n'a plus confiance en ses hommes politiques? Est-ce que la population n'a plus confiance en son avenir? Ou un sentiment de peur?
Vous allez poursuivre, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce chiffre, et vous avez bien compris l'angle, si j'ose dire, qu'on pouvait développer. Thierry est avec nous dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. RTL, Tour de France 2020.
Raphaël Vantard qui va terminer son premier Tour de France sur la moto. C'est dimanche, la fin, Raphaël! Retour à la maison.
Oui, malheureusement. Pour l'instant, départ donné il y a 8 minutes exactement à la sortie de la Tour du Pin d'Anvers. 168 km à parcourir aujourd'hui dans cette 16e étape avec 5 ascensions alpines, dont la montée de Saint-Nizier, la Mouche Crotte Col classée en première catégorie. Déjà plusieurs coureurs qui tentent de sortir du peloton. Un seul a réussi un petit peu à distancer le peloton tout à l'heure, Quentin Paché de la formation B&B Hotel Vital Concepts, mais il vient à l'instant d'être repris. Il y a donc beaucoup d'envie, beaucoup de fougue chez les coureurs. Le peloton est agité, mais le peloton reste groupé pour le moment. La suite, le fil rouge de cette 16e étape, toutes les 30 minutes sur RTL. Et prochain point avec Christophe Paco tout à l'heure à 14h.
Et avec la 5G, peut-être Raphaël qu'on aura moins ces problèmes de ligne que nous avons toujours. Est-ce que vous serez là lundi dans la rédaction d'RTL, Raphaël?
Je sais pas, je vais peut-être me reposer un peu lundi.
Moi, je voulais que vous veniez nous saluer parce que j'aurais adoré avoir votre témoignage d'un journaliste qui n'est pas en plus un journaliste de sport au départ et qui me raconte comment il a vécu son premier Tour de France, ce qu'il a découvert, ce à quoi il s'attendait entre les images d'Épinal qu'il imaginait et puis la réalité du terrain. En plus, c'est un tour effectivement particulier.
Donc, je peux rien vous refuser, Pascal.
Donc, si vous êtes là lundi entre 13h et 14h, venez 5 minutes nous parler parce que ça m'intéresse. On parlera forcément du tour lundi. Merci, Raphaël.
Allez,
13h31.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors Thierry, qui était avec nous, posait bien le sujet tel en tout cas que j'avais envie de le traiter. C'était pas tant la peine de mort qui nous intéressait, c'est que ce que ça signifie, ce que ça dit de notre société, c'est 55% Thierry. Et votre analyse était assez subtile et assez fine, vous pouvez poursuivre.
Merci beaucoup Pascal, de votre part j'apprécie.
C'était intéressant ce que vous disiez, c'était nuancé en plus.
Ben oui, moi ça m'interpelle parce que en 1981, il y a beaucoup de gens dont j'ai fait partie, j'avais 21 ans à l'époque, on votait François Mitterrand. Aujourd'hui j'ai 60 ans, j'hésite pas à le dire, une dégradation des valeurs de la société française, une dégradation du respect des lois. J'avais des leçons de morale quand j'étais gamin, je me prenais des coups de règle sur les doigts. Je suis pas pour, mais attention, je veux dire par là que les valeurs éducatives que l'on a reçues, je ne les retrouve plus. Il n'y a plus la crainte de l'autorité. Il n'y a plus la crainte de la loi.
Rapport avec la peine de mort? C'est ça, moi, j'en veux bien entendre.
J'ai beaucoup écouté, j'ai apprécié le débat entre, je crois que c'était Christine et Céline, la juriste, et puis une...
Christine
et
Lucie.
Voilà. Et donc, d'un côté, il y avait la position intellectuelle de la juriste, chose que je peux comprendre, où on dit, il faut que chacun ait sa chance, il faut qu'on ait des peines adéquates, assorties, etc., etc. Très juste. Mais de l'autre côté, quand on a quelqu'un qui a été victime de violences, qui a perdu la vie par des attaques, des agressions, sans parler de vengeance, on a envie de se rebeller en disant « Mais attends, t'as pris la vie de quelqu'un qui m'était cher, pourquoi est-ce que toi, tu vas continuer à vivre ?» On va dire « C'est une peine de prison à perpétuité, et au bout de 20 ans de peine incompressible, il va sortir. »
Les tueurs d'enfants ne sortent pas au bout de 20 ans. Les tueurs d'enfants, Fourniret, il sortira pas, Marc Dutroux, il sortira pas.
Ok, mais il y a plusieurs, il y en a pas qu'un seul, c'est pas un seul meurtre ou un seul accident. Donc c'est vrai que là, j'y vois plus une perte de confiance de la société ou une perte de repère de la société dans ses valeurs, dans ses fondements et dans ses croyances pour le futur. Est-ce que c'est une perte de confiance dans ces hommes politiques? Une perte de confiance dans la direction que doit prendre une société pour amener le peuple à un état meilleur que où il est actuellement. Mmh. C'est-à-dire que là, je me projette dans l'avenir. En fait, les lois sont là pour protéger les individus. Mmh. Et donc, je trouve ça intéressant que d'un seul coup, le peuple se rebelle et parmi les chiffres que vous avez donnés, 39% dans les partis de gauche qui se disent d'un seul coup pour la peine de mort.
Oui, c'est alors ça qui nous a étonné.
En arrière, en 81, ben, c'était 90% des partis de gauche qui étaient contre la peine de mort.
Ben merci Thierry de cette analyse. Merci de cette analyse. Je ne sais pas si Christine, qui était une non-abolitionniste, a envie de réagir sur ce qu'elle a entendu. Est-ce que vous avez été convaincue, par exemple, Christine, par ce que disait Thierry?
Non, je n'ai pas été convaincue par ce que disait Thierry.
Pourquoi?
Non. C'est vrai que la société actuelle, il y a un malaise effectivement dans la société actuelle. L'éducation doit jouer pour beaucoup, parce qu'effectivement, il y a trop de laisser-aller. Il n'y a pas assez de règles strictes, aussi bien dans les établissements scolaires, parce que maintenant, on fait un peu ce qu'on veut. Avant, il y avait une tenue obligée. Déjà, cette tenue devrait continuer à être obligée, premièrement.
Parce à l'ancienne.
Il y a des jeunes filles qui arrivent à l'école dans des tenues, et puis après, on va s'étonner qu'à la sortie, quelqu'un peut l'attendre, et on ne sait jamais comment ça peut finir.
Donc, non, mais c'est un type de
lois,
société,
La société actuelle n'est pas bonne du tout. Alors, comment faire pour y remédier?
Mais est-ce qu'elle était bonne?
Je n'ai pas de miracle.
Quelle société était bonne?
Il y a 30 ou 40 ans, elle était meilleure.
Oui.
On ne peut pas dire bonne, 100% bonne, mais elle était quand même meilleure.
Parce que c'est toujours pareil, quel est l'âge d'or? L'âge d'or, c'est 14-18, quand les gens s'entretuaient entre Allemands et Français. C'est la barbarie nazie entre 40 et 45. Toutes les sociétés ont produit parfois du malheur, de l'épouvante, des drames absolus. Et même dans une société aussi sophistiquée que l'Allemagne des années 40, on a vu le monstre qui est né. Donc vous voyez, c'est toujours très délicat de dire c'était mieux avant.
Oui, ça, là, je voudrais dire que ce n'était pas forcément mieux avant. Excusez-moi, Christine, mais ça, c'est le genre de truc. Mieux avant, non, parce qu'on va dire, on parle toujours du nazisme, on ne parle pas de Staline qui a fait ses grandes purges.
Oui, non, mais j'aurais pu parler de Staline, évidemment.
Dire que c'était mieux avant, non. Mais dire qu'on a des pertes de repères.
Oui. Non, mais disons qu'il y a quand même une parenthèse enchantée entre 1950 et 1990. Voilà. On a le droit de dire ça. Dans l'histoire même de l'humanité en Europe, il y a cette parenthèse avant l'arrivée du sida, après la Deuxième Guerre mondiale, les 30 glorieuses. Effectivement, on a le sentiment que c'est une société apaisée, où il y a peu de chômage, où il y a une violence qui est minime, en tout cas qui est moindre, et où il y a, en tout cas pour la France, quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Voilà, ça on peut le dire sur cette période enchantée. Bon, avant c'était parfois rude, avouons-le aussi. Il est 13h37, on va peut-être laisser passer une page de pub, on peut parler d'autre chose, hein. On peut parler de Jean-Pierre Pernaut par exemple. Qui pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, Greg Caranoni, on l'a dit tout à l'heure, moi j'ai dit Denis Brognard. Je me suis mouillé.
Vous?
Ah ben, moi je le connais en plus Denis, j'ai travaillé à TF1 avec lui, je le trouve excellent. Proximité avec le téléspectateur, notoriété, journaliste, crédibilité, il a toutes les qualités. Il est jeune, en plus, et à mon âge. Donc, non, il doit être un peu plus jeune.
Ah oui.
Parce que Jacques Legros, je crois qu'il est plus vieux que Jean-Pierre Pernaut, non?
Alors, je ne connais pas l'âge ni de Jacques Legros, ni de Jean-Pierre
Pernaut. C'est la même génération.
Ça vous intéresserait, vous, de nous laisser?
Ah, pas du tout. Mais moi, c'est pas mon truc, moi. C'est pas mon truc. Pas du tout. Moi, mon truc, c'est d'être avec vous.
Ah, ouf!
13h37, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Doit-on avoir peur, doit-on avoir peur de la 5G? Faut-il un moratoire? Vous êtes opposé à la 5G? Est-ce que vous avez des craintes? Vous pouvez nous appeler. Moi, je pense déjà que peu de gens savent ce qu'est la 5G, à quoi ça correspond. Je rappelle que la 5G est, comme son sigle le laisse deviner, la cinquième génération des standards en matière de téléphonie mobile. Et avec un débit 10 fois plus rapide que la 4G actuelle, cette cinquième génération permettra l'envoi de vidéos en ultra haute définition en quelques secondes et se montrera indispensable afin de prendre en charge des objets connectés de plus en plus nombreux. Cette technologie sera aussi moins consommatrice d'énergie. Les téléphones bénéficieront donc de davantage d'autonomie. Mais paradoxalement, ça fait réagir et tout le monde n'est pas d'accord. Et certains imaginent même que ça puisse être dangereux pour la santé. Ce sera notre débat. On sera avec Thibault Langsade, qui est PDG du groupe Jouve et ancien vice-président du MEDEF. Et nous serons avec Jean-François Débat, le bien nommé pour un duel, qui est maire PS de Bourg-en-Bresse et co-signature d'une tribune pour demander un moratoire sur le déploiement de la 5G. Donc il nous expliquera pourquoi. Pour le moment, on est encore sur la peine de mort. Je ne pensais pas qu'on serait aussi long, pour tout vous dire. Philippe, bonjour.
Bonjour.
C'est un débat qui... moi, ça me surprend qu'on en soit encore là. C'était il y a 40 ans quand même, le débat sur la peine de mort en France. Et on était déjà, nous, quasiment les derniers en Europe à abolir la peine de mort.
Oui, oui. Alors moi, je suis choqué un petit peu par les 55% de personnes qui souhaiteraient le retour de la peine de mort. Comme j'ai déjà entendu autour de moi, nul n'a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je vais paraître un petit peu chauvin, pas chauvin, mais... je vais paraître un petit peu trop tolérant par rapport à ce phénomène, mais j'ai 60 ans bientôt, donc en 81, j'ai donc voté pour François Mitterrand, qui a donc eu beaucoup de courage pour faire abolir la peine de mort, parce que de toute façon, les 49%, je crois qu'il y avait 49% de gens en 81 qui souhaitaient le retour de la peine de mort, en fait, hein. Moi, je suis choqué parce que il faut savoir, comme vous le disiez, il y a des erreurs judiciaires. Comme disait la dame tout à l'heure, je ne sais plus laquelle, il faut obtenir la sécurité pour tout le monde. Et à ce moment-là, ces gens-là, les mettre en peine incompressible dans une prison, isolés totalement. Oui, écoutez, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Mais par contre, le fait qu'il y ait ce courant, cette tendance au retour de la peine de mort, il faut savoir que moi j'ai été choqué en regardant le film, qui est de la fiction bien sûr, mais qui représentait un petit peu la cruauté du monde de la justice, et lorsqu'il s'agit surtout de crimes qui sont très graves. Je ne suis pas tolérant dans le sens où il faut que chacun ait sa chance de réinsertion. Là, il ne s'agit pas de la réinsertion. Il s'agit bien sûr d'un châtiment exemplaire, hein, c'est-à-dire l'isolement total. Et que la personne peut, avec le minimum dans la cellule. Maintenant, j'ai été choqué par le film « Deux hommes dans la ville » avec Gabin, Michel Bouquet et Alain Delon. Lorsqu'Alain Delon, qui donc a commis des... dans le film, hein, commet...
Stabligi. Oui. Dans le film, il s'appelle Stabligi. C'est formidable, ce film. C'est un film de José Giovanni avec Jean Gabin. Il est formidable, Alain Delon, là-dedans.
Ah, ben, moi, je pensais à Deux hommes dans la ville.
C'est Deux hommes dans la ville. Et il s'appelle Stabligi, le personnage. Et l'inspecteur qui est joué par Bouquet s'appelle Guattro. L'inspecteur Guattro, qui est une horreur. Mais j'ai dû voir 25 fois le film, non?
Ah oui, mais c'est horrible, c'est horrible. Quand on voit le condamné qui met sa tête là sur devant le couperet, enfin avec le couperet au-dessus de lui, et qu'on voit derrière le monsieur Gabin qui donc lui avait été son éducateur et avait très bien expliqué le problème. En fait, on est choqué par le fait que moi ça me fait penser un petit peu en 81. Quand Pascal tout à l'heure a dit que il y avait donc 49%, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. L'augmentation sera toujours là et ça sera pire en pire. Alors moi je dis qu'il faut un châtiment exemplaire, il faut certainement pas les laisser ressortir, pour les crimes d'enfants. Mais par contre, il y a peut-être d'autres moyens. Et il y a un auditeur qui a dit, je crois que c'est Thierry, a parlé de il faut aussi peut-être penser à d'autres solutions. Parce que de toute façon, la peine de mort en elle-même, elle est cruelle. Elle est cruelle. Attention, quand je dis cruelle, ça veut dire que c'est une décision qui n'est pas spontanée.
Eh bien, j'ai compris, Philippe, le message que vous vouliez faire passer. Mais là où vous avez raison, c'est de nous proposer de revoir ce film de 1973 de José Giovanni, où Alain Delon joue Gino Strabligi. J'ai dit Strabligi, mais c'est Strabligi, je suis en train de vérifier. Et Michel Bouquet joue effectivement l'inspecteur Guattro. Il y a Victor Lannou également qui joue et il y a Gérard Depardieu dans un de ses tout premiers rôles. On est en 73. Alors, Pascal était là. Également, il nous reste quelques secondes avant la publicité, Grégory ou...
Oui, quelques secondes.
Allez, quelques secondes avec Pascal qui habite Pornic. Pascal.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Pascal. Oui,
le fait est que j'habite Pornic. Très content d'être sur votre émission car j'ai vraiment un témoignage de cœur puisque j'ai vécu en Haute-Savoie, au-dessus d'Évian. Et en 1995, il y a une jeune fille qui a été violée et tuée par un monsieur. Cette jeune fille faisait partie de la famille d'une dame qui habitait en face chez moi. Le monsieur a été retrouvé, il a été mis en prison. 12 ans après, ils ont voulu le ressortir. Il y a eu une pétition de fait, il n'est pas ressorti. Les parents étaient terrorisés par ce qui s'était passé pour leur jeune fille. 20 ans après, écoutez-moi bien Pascal, le papa de cette jeune fille s'est suicidé quand il a appris la mort du monsieur qui était en prison. Donc le double peine, la famille a perdu également le papa. Il avait 50 ans. Donc c'est pour ça que quand j'entends les gens, on est tous un peu parents, et tout bon parent, tout bon papa, tout bonne maman, on ne pourrait pas supporter qu'on fasse du mal à nos enfants. Et surtout le mal ultime, Pascal. Donc ça s'est passé en 95. Et en 2015, le papa de cette jeune fille s'est suicidé. Et je le connaissais puisqu'il était chauffeur de car sur Châtel et Morzine-Avoria. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce que nos politiques peuvent penser d'un tel événement? C'est un événement réel qui s'est passé. Et je peux vous dire, moi, j'étais en contact avec la sœur de ce monsieur qui s'est suicidé, Martine. Elle était effondrée. Voilà ce qui se passe quand il arrive des drames comme ça. Alors, oui, peine de mort. J'entendais le monsieur qui disait, non, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Mais je pense que pour faire un deuil, à un moment donné, la personne qui a fait la chose la plus horrible qu'il puisse imaginer, elle doit disparaître.
Écoutez, Pascal, merci de ce témoignage, si j'ose dire. Et c'est là aussi, cette émission permet d'entendre peut-être des témoignages qu'on n'entend pas aussi fréquemment que cela. On peut être d'accord, ne pas être d'accord avec vous. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotion, en tout cas, dans ce que vous avez dit. C'est toujours des sujets extrêmement délicats parce que l'argument qui consiste à dire si c'était ta fille, si c'était ton frère, etc., c'est un argument qu'il faut récuser parce que justement la société prend des décisions non pas en fonction, elle ne réagit pas comme un être humain peut réagir. L'esprit de vengeance, il peut animer l'être humain. L'esprit de vengeance, a priori, ne doit pas animer une société. Il est 13h49, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Nous avons retrouvé un extrait de Deux hommes dans la ville.
Oui, la justice. Si vous permettez, monsieur le président, j'ai une opinion personnelle de la justice. Je pense qu'elle doit être juste, mais pas féroce.
C'est intéressant de voir d'ailleurs en Europe les dates d'abolition. Par exemple, en Andorre, c'est en 1943. En Autriche, c'est en 1950, la dernière exécution. En Belgique, c'est en 1950. En France, la dernière exécution, c'était peu avant 81, j'imagine. À Chypre, c'est en 62. En Croatie, bon, c'est un jeune pays, la Croatie, c'est différent. Au Danemark, par exemple, la dernière exécution, c'est en 1950 également. En Espagne, c'était en 1975. C'était donc avant la France. En France, la dernière exécution, c'est 10 septembre 1977. Donc, et l'abolition sera 4 ans plus tard. Donc, en Irlande, c'était en 54. En Islande, c'était en 1830. la dernière abolition, la dernière exécution. Et je pourrais continuer comme ça. Il y a beaucoup de pays. Nous, on était, je l'ai dit, en retard. Un dernier témoignage, peut-être, de Pascal, qui veut rajouter un mot, ou Christine, qui a été... Parce que Christine, c'est une des rares qui souhaitait le rétablissement, donc elle a, de cette peine de mort, elle a entendu plusieurs témoignages, le témoignage de Pascal, notamment, Christine.
Oui, j'ai entendu effectivement plusieurs témoignages. Bon, je suis d'accord qu'effectivement, il faut faire d'autres lois, effectivement. Mmh. Il faut que la personne reste en prison jusqu'à la fin de sa vie, c'est certain.
Donc vous avez été mais un poil quand même convaincu.
Oh, pas quand même convaincu, mais quand on réfléchit à tout, mais la société actuelle, de toute manière, ne permet pas effectivement de remettre la peine de mort, mais elle ne permet pas non plus de laisser les gens jusqu'à leur mort dans une prison. Alors là, je trouve qu'à ce niveau-là, il faut agir, il faut faire quelque chose. Parce que
je vous dis, citer deux cas, Fourniret et Dutroux, vous verrez qu'ils ne sortiront pas.
Ils ne sont pas les seuls.
Non.
Quand vous voyez tous les faits divers, quand vous lisez les journaux.
Je suis d'accord avec vous, mais les tueurs abominables, je n'ai pas d'autre adjectif qui me vient à l'esprit à l'instant. Ces tueurs-là, particulièrement abominables, si tant est que.
Oui, oui.
Et notamment les meurtres d'enfants, etc., ces gens-là ne sortent pas, sortiront pas.
Les tueurs féroces, comme vous dites.
Bah, et notamment les tueurs d'enfants, et qu'on multipliait parfois les tueurs d'enfants. Bon, c'était pas très gai, d'une certaine manière, tout ce débat que nous avons eu aujourd'hui, c'était intéressant, mais comme il est 13h55, c'est l'heure de Laurent Tessier, qui va nous parler de la 5G. Et c'est vrai que la 5G, alors ça fait partie des mots un peu qu'on entend comme ça, et je le disais tout à l'heure, mais je pense que les gens, ils sont un peu perdus, pour tout vous dire. Alors, dites-nous tout.
Doit-on avoir peur de la 5G ? Faut-il s'en méfier ? C'est la question du jour.
Hystérie collective sur les OGM, sur le glyphosate, qui est un désherbant accusé de toxicité, et désormais aussi sur la 5G, le futur réseau de téléphonie.
Mais attendez, une question à 1 million d'euros. C'est quoi cette 5G ? Guillaume Vaquero est consultant en télécommunications.
Eh bien, la 5G, c'est tout simplement la dernière génération de technologie de téléphonie mobile qui vient après la 4G pour le grand public. Et là, on parle surtout du débit, de capacité à faire transporter plus de données en moins de temps. Mais ça amène aussi beaucoup d'innovations dans le monde industriel pour les entreprises. Plus de sécurité, plus de fiabilité.
Une tribune signée par 70 élus de gauche et écologistes réclame un moratoire en application du principe de précaution. Ce moratoire avait déjà été voulu par la Convention citoyenne sur le climat. Emmanuel Macron a répondu hier soir. Le chef de l'État recevait à l'Élysée une centaine de responsables de la French Tech, les entreprises du secteur du numérique.
La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Ah, les Amish, bon, c'est une communauté religieuse hein, présente surtout aux États-Unis qui se tient à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur. La 5G, vous le savez, suscite quelques inquiétudes. Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, était l'invité du grand jury début juillet. Pour lui, il y a clairement d'autres priorités.
En France, il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à Internet, qui sont dans des zones blanches. La priorité pour moi, c'est est-ce qu'on doit passer à une nouvelle techno qui va consommer encore plus d'énergie, qu'on connecte notre grille-pain, notre frigidaire, ou est-ce qu'il faut donner Internet à toutes et tous, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui en France sans Internet, sans le numérique.
Les questions un petit peu provoquent. Les écologistes sont-ils anti-progrès ?
Je sais pas, moi, est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des films porno en HD ? Un quart des vidéos qui sont regardées, c'est des vidéos porno. Donc en fait, on pourrait résumer, évidemment, je fais un petit raccourci, mais grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD.
L'attribution des fréquences de cette technologie mobile doit débuter à la fin du mois en France. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, réclame un référendum sur le sujet. Alors, plusieurs questions se posent une nouvelle fois. Doit-on avoir peur de la 5G ? Quelles conséquences sur l'environnement et notre santé ? Avec nous, dans un instant, Thibault Langsade, PDG du groupe Jouve et ancien vice-président du MEDEF, et Jean-François Debat, maire socialiste de Bourg-en-Bresse et co-signataire de cette tribune qui demande un moratoire sur le déploiement de la 5G.
Il est 13h58, ça va être passionnant, à tout de suite.
Les Amish de mes Amish sont mes Amish.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le flash avec Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La mairie de Paris mise en examen, tout comme le syndic de l'immeuble devant lequel s'était produite l'explosion de la rue de Trévise dans le 9e arrondissement. 4 personnes étaient mortes, c'était en janvier 2019. Après des expertises, donc poursuite pour homicide et blessures involontaires et pour destruction par l'effet d'une explosion ou d'un incendie. L'inspection générale de la justice a remis ce matin son rapport sur l'affaire dite des fadettes. Plusieurs grands avocats parisiens avaient appris en juin qu'ils avaient fait l'objet d'une surveillance par le parquet national financier alors que celui-ci était à la recherche d'une taupe dans un des dossiers concernant Nicolas Sarkozy. Le rapport exonère le PNF. Aucun dysfonctionnement à signaler selon lui. Direction l'Isère, le Tour de France, 164 km entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans. Et c'est la 16e étape aujourd'hui.
RTL, Tour de France 2020.
Bonjour Christophe Paco.
Bonjour Agnès Bonfillon.
Alors
Ça c'est du lancement.
On a progressé. 100% iséroise, messieurs, dames, Pascal et Agnès, aujourd'hui. Et déjà une échappée, peut-être la bonne, hein, qui vient de prendre une bonne minute d'avance, justement, avec, à l'intérieur de ce groupe d'échappées, une quinzaine, 3 Français, pas des moindres. Julien Alaphilippe, Warren Barguil ou encore le jeune Quentin Paché, qu'on a déjà vu à l'ouvrage depuis ses 15 premiers jours de course. Peloton en entier, puisque personne n'était contrôlé positif au Covid-19, faut-il le rappeler. Ça va rouler jusqu'aux Champs-Élysées à Paris. Une minute d'avance sur le peloton, déjà quelques détachés, hein, quelques coureurs lâchés dès la première côte du jour, la côte de Virieux, notamment le jeune David Gaudu, prochain point dans une demi-heure et la prochaine difficulté dans une grosse heure, ce sera le col de porte qui sera l'un des juges de paix du jour aujourd'hui, et notamment vers la fin la montée de Saint-Nizier de Moucherotte, l'Isère. 1 minute 19 d'avance pour les échapper devant le peloton maillot jaune.
À tout à l'heure, Christophe, évidemment, on vous fait vivre le Tour de France avec un point toutes les demi-heures. Et il va falloir encore faire avec la chaleur, pas seulement en Isère, hein, un peu partout, météo encore très estivale. Seuls quelques passages nuageux sont à prévoir sur la façade ouest de Brest jusqu'à Biarritz. Côté température, hein, 23 à Cherbourg, 30 à Biarritz, 31 à Lyon, Dijon, Nîmes, 32 à Paris, Lille et même 33 à Amiens. Vous avez peut-être joué au Quintet, voici les résultats. Il fallait jouer le 5, le 13, le 8, le 3 et le 9. 5, 13, 8, 3 et 9. 14h03. Les auditeurs ont la parole. La suite avec vous, Pascal Pro, lors du débat.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le duel des auditeurs ont la parole.
Et je salue M. Thibault Langzade, qui est PDG du groupe Jouve. Et ancien vice-président du MEDEF.
Bonjour.
Le groupe Jouve, qu'est-ce que vous...
qui est une entreprise de services numériques. On fournit un certain nombre de solutions un peu partout dans le monde, surtout dans l'univers industriel, bancaire, financier, assurance et mutuelle.
Alors vous allez pouvoir nous éclairer. On va essayer d'être très pédagogique, puisque les auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est la 5G. Je rappelle que c'est son sigle qui a donné son nom. Là, c'est la 5e génération des standards en matière de téléphonie mobile, et avec un débit 10 fois plus rapide que la 4G actuelle, cette 5e génération permettra notamment l'envoi de vidéos en ultra haute définition en quelques secondes, et se montrera indispensable afin de prendre en charge des objets connectés de plus en plus nombreux. Et Monsieur Langsad, on imagine que vous êtes pour la 5G. Jean-François Debac, maire PS de Bourg-en-Bresse et co-signataire d'une tribune pour demander un moratoire sur le déploiement de cette 5G, est avec nous. Bonjour Monsieur Debac.
Bonjour.
Alors on comprend mal finalement pourquoi on n'accéderait pas à ce qu'on considère comme un progrès. C'est-à-dire que si ça va plus vite, si on est connecté, si la ligne est de meilleure qualité, si ça peut permettre également le télétravail, pourquoi pas ? Parce que ça, si c'est de meilleure qualité, ça sera plus facile d'utilisation. Pourquoi vous êtes contre ?
Mais, d'abord, nous demandons un débat. Pourquoi ? D'abord, parce que pour le télétravail, je vous rassure, on est en train de faire un plan fibre à plusieurs dizaines de milliards d'euros, et pour les lignes fixes, la fibre répondra parfaitement aux exigences du télétravail. Simplement parce que on est à un moment où on nous dit la main sur le cœur, il faut s'interroger sur les conséquences de nos choix, et en particulier par rapport aux enjeux climatiques. Or, la 5G, c'est indéniablement une surconsommation phénoménale d'énergie pour faire fonctionner simplement les applications multiples et les milliards d'objets connectés dont on nous parle, et puis ces milliards d'objets connectés eux-mêmes qui, dans le domaine courant, pourront nous permettre peut-être de régler notre four à distance et notre frigo à distance, sont eux-mêmes générateurs de ponctions sur les ressources. Donc nous, ce que je dis, c'est que rentrer dans la 5G et dire on y va parce que de toute façon c'est du progrès, sans se poser la question des impacts environnementaux, des impacts énergétiques, c'est ne pas avoir fait la transition écologique dans sa tête.
Bon, est-ce que c'est vrai? Parce que là, il y a discussion.
Comme le monde d'avant.
Est-ce que c'est, moi, je peux pas répondre à ça. Est-ce que c'est vrai ce que dit Monsieur Debat?
Bah, je trouve qu'il l'aborde sur le petit trou de la lorgnette, c'est que si on veut être mieux connecté, travailler plus rapidement, être plus efficient, nous avons besoin de la 5G. Et avant de rentrer dans le fond, si nous voulons réduire l'hégémonie américaine et chinoise,
mais c'est pas ce qu'il dit.
Oui, non, mais attendez, c'est important. Bah si non, mais nous voulons être compétitif.
Non, répondre. Non, mais ça m'intéresse pas. Pardonnez-moi. Bah, ce qui m'intéresse, moi, il dit, c'est en matière d'énergie. Plus consommateur et ça met en péril danger climatique. Oui ou non ?
Non, c'est faux. D'accord. Pour une raison très simple, c'est que pour le moment, les applicatifs d'objets connectés ne sont pas là et c'est abordé par le trou de la lorgnette le plus petit parce que l'application de la 5G n'est pas uniquement de visionner des films pornographiques comme j'ai pu entendre il y a quelques secondes ou de faire actionner une machine à café. Ce sont des applicatifs industriels, ce sont des applicatifs dans le monde agricole et en l'occurrence, si on s'arrête sur ces deux points, hein, c'est une meilleure utilisation de nos ressources. Si on va dans le domaine agricole, ça permettra de limiter les épandages dans les champs parce que les objets connectés permettront de mieux gérer l'agriculture. Donc là, on est à la fois sur une protection de la planète, mais également sur une meilleure optimisation de ce que nous exploitons. Et bien évidemment, dans le monde industriel, c'est une révolution que nous devons avoir qui nous permettra probablement et
donc
sûrement...
Donc pas de danger d'avoir... climatique pour vous.
Mais il n'y a pas de danger climatique. Et au contraire, plus vous consommez rapidement, moins vous consommerez d'énergie.
Monsieur Debat, vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet?
Non.
Je voudrais qu'on l'éclaircisse parce que c'est important.
On nous dit à chaque fois, comme on aura beaucoup plus d'objets connectés, ça c'est une donnée, c'est un principe, eh bien chacun d'entre eux avec la 5G consommera moins d'énergie que si on est resté avec la 4G. C'est probablement exact, mais on va en avoir des dizaines de fois plus. Vous savez, je vais prendre un exemple que vos auditeurs vont parfaitement comprendre. Nos voitures consomment individuellement beaucoup moins qu'il y a 30 ans, mais comme on a deux fois et demi plus de voitures, on consomme plus de pétrole qu'il y a 30 ans. Le problème, il est exactement là. Et ce que nous demandons, c'est une discussion sur les usages. Moi, je dis, le progrès technologique est un progrès si, effectivement, on sait que les usages vont permettre un progrès collectif. Et donc, ayons au moins ce débat, pourquoi faudrait-il que sur ce sujet, on n'ait aucun débat? On ne peut même pas en discuter. Le président de la République s'engage sur un moratoire devant la Convention citoyenne sur le climat, puisque c'est une des propositions de la Convention citoyenne. Moratoire, ça ne veut pas dire on arrête, ça veut dire on discute. Et aujourd'hui, on nous dit non, il faut y aller, il ne faut même pas discuter des impacts environnementaux. S'ils sont si bons que ça, eh bien faisons-le, ayons une expertise, et à ce moment-là, je suis tout prêt à être convaincu, mais à ce jour, elle n'a pas eu lieu. Deuxième élément.
On va marquer une première publicité. Évidemment, c'est un débat qui est assez technique, je l'imaginais, et il va falloir le simplifier à vous. Pardonnez-moi, je vous ai un peu brusqué, monsieur Langzade, mais on essaye de le chapitrer. D'abord, l'aspect donc dangereux, hein, d'ailleurs, j'entends parfois dire que c'est dangereux pour les individus. Donc ça, faut répondre à cette question aussi. Et puis, le danger climatique, et puis l'intérêt ensuite. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors vous savez que ce débat est toujours arbitré, commenté par des auditeurs. Alors là, on a quand même un auditeur un peu particulier parce qu'il nous écoutait, il m'a envoyé un texto, il voulait intervenir. C'est Xavier Couture, que les auditeurs d'RTL connaissent un peu puisque vous avez participé parfois à On refait le monde. Et vous connaissez plutôt bien ce système-là puisque vous avez travaillé pour un grand opérateur, me semble-t-il, Xavier Couture.
Oui, tout à fait. J'ai travaillé pour la Maison Orange. Je ne peux pas ne pas regarder ce sujet sans prendre en compte ce que j'ai, je dirais, constaté, appris, vu, toute à la fois la connaissance et les dangers. Je reconnais tout à fait la partie qui peut être dangereuse dans la surutilisation des réseaux. Je voudrais juste quand même insister sur le fait que, et là je rejoins ce qu'a dit le président de la République, il y a une forme d'archaïsme à ne considérer la 5G que comme une amélioration du système ne débouchant que sur des catastrophes. La caricature qui permet de dire que 25% des vidéos sont des vidéos porno ou je ne sais quoi. Bien entendu, la caricature qui consiste à dire il y a 25 ans, les voitures consommaient plus, mais il y en avait moins. Ben oui, d'accord, mais il y avait moins de population sur sur la planète. Tout cela me paraît être une négation de ce que va réellement apporter la 5G. Des tuyaux 10 fois plus gros, 10 fois plus rapides, c'est l'amélioration du travail, une capacité des réseaux français et des réseaux européens de rivaliser avec la domination numérique américaine et demain chinoise. C'est la possibilité de faire émerger des villes intelligentes. C'est la possibilité, et les villes intelligentes, bien entendu, là, je parle à vos auditeurs, ils ne peuvent pas comprendre à ce jour parce qu'ils n'ont peut-être pas encore la connaissance de ce que cela représente. Mais c'est beaucoup de papier en moins, c'est beaucoup de bureaucratie en moins. On parlait tout à l'heure d'un certain nombre de déficiences en matière d'application des peines. On parlait des difficultés que l'on a face à une administration qui est parfois bureaucratique. Eh bien, l'émergence d'un numérique qui est, je dirais, efficace et qui permet à chacun d'accéder à l'ensemble des données à cette rapidité-là, c'est un moyen de faire diminuer tous les archaïsmes de notre société. C'est vital pour ce pays. C'est vital pour essayer de rester dans la course et de ne pas être mis à la remorque des économies occidentales. Je terminerai juste avec un mot. Il a été rappelé qu'effectivement, il y a un grand plan fibre, mais il y a une très grande différence entre un plan fibre qui amène le haut débit ou le très haut débit au domicile ou dans les bureaux, et puis la 5G qui est justement la capacité d'amener ce très haut débit en mobilité à tout le monde, partout, tout le temps. Je rappelle
c'est clair.
Encore des zones blanches. Voilà.
C'est clair.
Je peux être interminable sur le sujet.
Mais oui, mais Jean-François Debat et Thibault Langsade sont là pour le poursuivre ce débat. Monsieur Debat d'abord et Monsieur Langsade après.
Quand j'entends parler de caricature, l'image du président de la République en matière de Amish, ça se pose là quand même. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile de dire. En gros, ceux qui sont contre, c'est ils veulent revenir à la lampe à huile. Moi, je nous demandons.
Non, mais des arguments de Monsieur Couture étaient intéressants.
J'entends. Mais le télétravail, par exemple. Moi, j'ai entendu les arguments du télétravail. Moi, dans ma communauté d'agglomération, 140 000 habitants, il y a plusieurs milliers d'habitants qui n'ont même pas l'accès au portable. Ils ont ni la 3G ni la 4G. Pour eux. La fracture numérique, la possibilité de travailler chez eux, c'est la fibre et on dépense encore une fois des milliards d'euros. On fera quand même pas du télétravail depuis nos transports en commun. Donc il faut un débat aussi sur l'utilité et sur les usages. Vous savez, une avancée technologique n'est un progrès que si elle fait avancer l'intérêt collectif. Et je le dis aussi dans les propos qui viennent d'être tenus. Il y a aucun élément sur est-ce que nous pouvons nous permettre de surconsommer encore des ressources et de l'énergie pour un profit qui reste à discuter. On ne peut pas faire... Le président de la République nous a dit la main sur le cœur, chaque fois qu'on prendra une décision, si elle est bonne pour le climat, on la prendra. Si elle n'est pas bonne, on ne la prendra pas. Aujourd'hui, on la prend alors que l'on n'a pas évalué les impacts sur le climat.
Sauf que personne ne comprend le rapport entre la 5G et le climat. C'est ça qui est quand même très étrange.
Parce que vous savez, la voiture autonome, qui est une lubie industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement qu'on va avoir des puissances de calcul phénoménales pour faire rouler des voitures. Donc, en plus de leur consommation énergétique de base, il y aura en plus une énorme consommation. Et Internet représente aujourd'hui la partie de la consommation énergétique qui n'arrête pas
d'augmenter. Jean-François Debat vous répond et je rappelle qu'il est PDG du groupe Jouve.
Voilà. Oui, non, moi je ne suis pas PDG.
Thibault Langsade, pardonnez-moi.
Je suis président de région, mais je ne suis pas PDG, pas encore.
Voilà.
Thibault Langsade. Je suis effrayé par ce débat parce que je ne croyais pas que ça pouvait revenir de cette façon-là en France. On n'a pas ces débats-là dans d'autres pays de la communauté européenne, encore moins aux États-Unis et évidemment pas en Chine. Au moment où nous devons aller plus vite, plus fort, et nous devons reconstruire, et ça a été dit très justement, on va dire une souveraineté numérique, ça passera par un écosystème que nous devrons maîtriser et par la 5G. Après, considérer que la 5G est uniquement l'utilisation des applications numériques particulières, c'est une fois de plus, regardez sous un angle le plus petit. C'est une révolution qui peut se passer dans le monde industriel, des services et dont nous avons besoin. Ce qui risque de se passer si nous ne développons pas cette 5G, c'est d'être à la traîne, une fois de plus, sur le reste du monde, mais évidemment par rapport à nos compétiteurs européens. Après, l'impact sur le climat, il reste à démontrer, mais pas plus, pas moins que la 3G ou la 4G. L'impact sur la santé, pas plus, pas moins que l'impact sur la 3G et sur la 4G aujourd'hui. Toutes les études démontrent aujourd'hui qu'il y a à la fois une zone d'inconnu et absolument pas de dégâts plus importants sur l'individu ou sur le climat. Et donc, on est rentré dans une sphère politique qui est surtout dans une logique de décroissance voulue par certains, on va dire, mouvements écologistes, qui est en dépit du bon sens. Et d'ailleurs, les arguments que vous avancez, qui est uniquement des arguments liés à des applications domestiques, mais c'est 25% de l'utilisation que l'on aura avec la 5G, pardon, qui sera domestique. Le reste, ce seront des implications qui seront liées au monde du travail. Au moment où on a le Covid qui nous renferme sur nous-mêmes, au moment où nous avons besoin d'une souveraineté forte, et au moment où nous devons corriger les inégalités, parce que vous faites, on va dire, vous vantez votre territoire sur l'application de la fibre, mais la fibre, elle sert le domicile, elle ne sert pas la mobilité. Donc si on veut combler une forme d'inégalité sur nos territoires, on aura besoin de la 5G pour pouvoir avancer de façon structurelle dans notre pays.
Une pub, et puis on va conclure. Je pense que chacun peut entendre argument contre argument. Il y en a beaucoup peut-être qui découvrent également ce débat. Je retiens de ce que dit Monsieur Langsad, et évidemment, il faudrait vérifier tout ce que vous dites. Est-ce que la 5G, c'est pas pire que la 4G ou la 3G sur le plan écologique et sur le plan sanitaire, en tout cas, dites-vous. Ça, c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument, s'il est particulièrement juste. Je ne peux pas le vérifier. Mais effectivement, si c'est la même chose que la 4G, la 3G...
L'Agence nationale de sécurité vérifie, et pour le moment, elle ne voit pas d'argument qui permet de dire que la 5G est plus ou moins nocive que la 3 ou 4G. L'OMS n'a pas évalué de façon différente la 5G par rapport à la 3 et la 4G.
La pub, et à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 14h21. Pourquoi, monsieur Debat ? Moi, j'aime bien cet argument. On ne peut pas, évidemment, être exhaustif. Mais quand monsieur Langsad dit de toute façon la 5G, c'est pas pire que la 4G ou que la 3G en matière d'écologie ou sanitaire, est-ce que vous validez ça vous-même ?
Écoutez, en termes sanitaires, moi je suis pas médecin, donc je pense que les responsables politiques ou chefs d'entreprise ne peuvent pas avoir raison sur tout et intervenir sur tous les sujets. Il y a simplement, le gouvernement a estimé qu'il avait besoin de demander à l'ANSES une évaluation sanitaire. C'est paradoxal de lancer les applications alors que par ailleurs on n'a pas le rapport d'évaluation des scientifiques. Sur la question du bilan écologique, non, il n'existe pas. Ce que vous dites est une affirmation, mais ça n'est pas, il n'y a pas de bilan. Ce que nous disons, c'est que un moratoire, c'est pas un rejet en disant il y aura jamais, c'est le temps d'avoir un débat public pour expertiser cela.
Et comment
cela.
Vous expliquez, et par exemple, qu'on est les seuls à se poser ces questions? C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que toute l'Europe, toutes les États-Unis, tout le monde veut la 5G, et nous, on est dans un mouvement de freiner des quatre fers.
On est dans un mouvement. D'abord, on n'est pas les seuls à se poser des questions. La question, c'est celle de est-ce que on poursuit ce mouvement. En gros, est-ce que le monde d'après est exactement le monde d'avant, en encore plus rapide et plus consommateur, ou est-ce que on essaye de regarder avant de se lancer dans une technologie qui aura des impacts effectivement certainement positifs, mais aussi des coûts, si les effets positifs l'emportent sur.
Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Pourquoi les autres pays ne se posent pas les mêmes questions?
Si on ne prend que les dirigeants de ces pays, ils sont comme Emmanuel Macron. Donc vous pouvez avoir le sentiment que personne ne se pose la question. Il y a un débat en Allemagne sur la 5G. Simplement, les autorités allemandes, comme les autorités françaises, considèrent que circuler n'a rien à voir. Nous disons, si effectivement c'est une technologie qui porte autant de bénéfices que ce qu'on nous dit, ayons un débat public, chacun en sera convaincu, et à ce moment-là, au moins nos décisions et nos choix auront été éclairés par un débat préalable.
Écoutez, je ne sais pas si les entrepreneurs sont des toutologues qui parlent sans savoir. Néanmoins, les entrepreneurs savent lire. Et donc, parfois, ils sont responsables. Quand vous regardez l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui nous dit qu'il ne voit pas en quoi la 5G serait fondamentalement différent et plus dangereux que la 4G ni même que de la 3G. Et quand vous regardez l'OMS, qui est une organisation reconnue, la recherche n'a pas pu fournir de données étayant une cause de relation à effet et d'effet négatif sur la 5G. Donc on essaye d'être pragmatique, ceci étant, le débat peut être ouvert, le débat peut être lancé. Néanmoins, pour les entrepreneurs, quand nous regardons avec les choses de façon factuelle, nous ne voyons pas en quoi la 4G, la 3G ou la 5G est différente sur l'environnement ou sur, on va dire, notre santé. Mais là où vous divergez, c'est que vous faites un pari sur le futur, sur les applications connectées qui auront pour vous des impacts négatifs sur la vie de nos concitoyens.
On va marquer une dernière pause et vous remercier tous les deux. On va conclure, bien évidemment. Le problème, ce n'est pas le réseau, nous dit Xavier Couture, c'est la consommation des plateformes de la mémoire. La 5G n'a rien à voir, sauf à augmenter la connexion. Les Allemands ont investi 7 milliards d'euros pour développer la 5G. La 5G, en termes de réseau et de conso des terminaux, elle est plus économe que la 4G. Le problème, c'est que ce qui est formidable, c'est que personne ne dit la même chose. Monsieur Debat, vous disiez que ça allait consommer plus d'énergie.
Au total, pas de manière unitaire.
Et oui, mais c'est ça qui est...
Chaque usage sera un pari sur le futur.
C'est ça qui est difficile dans ces débats-là. Et j'espère que les auditeurs auront pu... vraiment saisir toutes les nuances, parce que c'est pas simple. L'histoire de l'économie, par exemple, c'est un point central, monsieur Debat.
Ben absolument, mais c'est bien pour ça qu'il faut en débattre. Mais encore une fois, moi je n'ai pas parlé tout à l'heure des aspects sanitaires, mais le bilan environnemental et écologique n'est pas fait. Et par ailleurs, ce que je dis, c'est que de manière unitaire, on consommera peut-être moins, mais comme on va démultiplier les usages, et c'est aussi l'objectif.
J'ai compris la démonstration.
Au total, on consommera davantage et c'est un problème.
J'ai compris. Bah écoutez, c'était argument contre argument. Il est 14h26. On va accueillir Flavie Flamand. On va écouter notre ami Laurent Tessier qui va conclure. Verdict des auditeurs, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.